On se dit tout sur France Bleu, Vanessa Lambert.
Je suis très heureuse de vous retrouver comme chaque soir sur France Bleu pour votre émission de confidence. On se dit tout et ce soir on se dit tout sur les fans. Si vous êtes fan d'un chanteur, d'un acteur, d'un sportif, d'un journaliste radio, donc c'est votre émission. Vous êtes fan de Johnny Hallyday, d'Indochine, d'Elvis Presley, d'Étienne Dao, de Mylène Farmer, de Lady Di, de Raphaël Nadal, de François Mitterrand, des Beatles, de Justin Bieber, peu importe. Venez nous raconter surtout quand et comment ça a commencé et surtout tout ce que vous avez pu faire pour approcher votre star, des kilomètres sur les routes pour les voir en tournée, des économies pour acheter des places de concert, des heures d'attente pour avoir un autographe. Et si rencontre il y a eu, venez aussi nous parler de ce moment super quand le fan rencontre son idole. Et puis malheureusement aussi, parfois les idoles s'en vont avant nous. Comment on fait pour se remettre de ce décès? 0810 055 056, venez nous rejoindre et venez en parler ce soir avec notre grand témoin, Raphaël Melki, auteur de Purple Fame aux éditions Renaissance du livre. Bonsoir Raphaël.
Bonsoir.
Le sous-titre de votre livre, c'est « Histoire d'une addiction à Prince ».
Exactement.
On parle vraiment d'addiction dans ce cas-là?
Complètement, ouais, dans mon cas, oui, dans mon cas et dans celui de beaucoup d'autres personnes que j'ai pu côtoyer, que je côtoie encore, il y a un moment où ce plaisir prend une telle place et devient tellement important que parfois il y a des instants de douleur et même de souffrance bien avant les incidents ou les accidents horribles dont vous parlez, et c'est pour ça que je parle d'une addiction.
Votre histoire avec Prince, elle est arrivée un petit peu par hasard parce que vous au départ c'était Michael Jackson quand même quand vous étiez gamin.
Mais au départ, alors, c'est une question qui revient souvent. Au départ,
c'est Michael Jackson. Michael Jackson n'a pas fait assez de disques.
Ouais, exactement. Mais comme toute la France, c'était Michael Jackson. On n'avait pas beaucoup le choix et il était omniprésent et il fallait lui trouver un outsider. Donc, médiatiquement, Prince était la meilleure personne pour cela. Et donc, comme tout le monde, j'ai suivi le flot des personnes qui l'ont découvert, qui ont découvert Prince dans les années 80.
On va parler bien sûr de tout votre parcours depuis l'âge de 13 ans jusqu'à aujourd'hui, de toute la famille aussi, c'est pour ça que ça s'appelle Purple Fame, comme la famille, et puis de cette histoire tragique il y a un an, pratiquement tout pile le 21 avril, avec le décès de Prince, et qu'est-ce qui se passe aussi dans la tête et dans la vie d'un fan. On va évoquer tout ça avec vous Raphaël, et puis avec vous qui nous écoutez également ce soir, venez nous rejoindre, venez nous parler de votre vie de fan, des douleurs parfois aussi, ça fait mal quand on aime beaucoup, mais des grandes joies également. C'est votre émission, c'est On se dit tout, comme chaque soir sur France Bleu.
Vos témoignages, vos expériences. Ce soir, on se dit tout sur France Bleu avec Vanessa Lambert.
Et c'est un petit peu normal de démarrer cette émission avec Prince, puisqu'on parle de Prince du début à la fin de votre livre, Raphaël Melki, Purple Fame, histoire d'une addiction à Prince chez Renaissance du livre. Et on parle des fans ce soir. Si vous êtes fan, vous aussi, venez nous rejoindre, fan d'un chanteur, d'un groupe que vous suivez depuis des années, d'un acteur, d'un sportif, d'un animateur télé. Si vous collectionnez, si vous vous retrouvez avec d'autres femmes sur des forums, si vous êtes de toutes les tournées, de toutes les émissions de télé, vous avez fait signer des posters, des CD, même des t-shirts, venez nous rejoindre pour nous parler de votre idole, un chanteur d'aujourd'hui, mais pas forcément. Peut-être que vous étiez fan de Claude François, de Serge Gainsbourg, de Michael Jackson. Et justement, ça fait quoi quand ils disparaissent? Comment on fait pour expliquer aux autres qu'on a l'impression de perdre quelqu'un de sa famille alors que ce n'est pour aucun chanteur? 0810 055 056, Raphaël Melki, fan de Prince, est donc avec nous pour vous écouter, nous parler de son histoire aussi. Et on va accueillir tout de suite Christelle en Bourgogne. Bonsoir Christelle.
Bonsoir Vanessa.
Alors vous êtes fan de Moby.
Exactement, oui.
Moby,
Richard,
oui.
Richard Melville Hall.
D'accord. Moby, qu'est-ce qui devient Moby d'ailleurs, Christelle?
Eh ben, j'attends qu'il vienne chez moi.
Ah ben, il vient chez vous, comme ça.
Ah ben, attendez, je me déplace pas, moi, c'est lui qui vient.
Il est déjà venu chez vous, en Bourgogne, faire un concert?
Non, mais il est venu... Non, mais c'était de l'humour, mais ça, vous vous souvenez pas de moi, si je suis j'avais participé à une de vos émissions avec une femme de caractère.
Ah, ça s'entend que vous avez du caractère, Christelle, hein, ça s'entend.
Et donc, je me dis, Moby, il va venir chez moi, parce que moi, je me déplace pas, quand même.
Ouais, je vois bien. Attendez, Ça a commencé comment, votre histoire avec Moby, alors?
Parce que j'ai beaucoup de musique passée à travers des films.
Oui.
Et beaucoup s'en servent encore de ces musiques.
Mais on peut dire que vous êtes vraiment fan dans le sens fanatique.
Ah oui, je suis fan à fond parce qu'il est comme moi, il est végétalien, il a une personnalité bien à part des autres.
Oui.
Je sais pas si vous connaissez un peu le personnage.
Un petit peu, oui.
Donc, beaucoup de gens le connaissent puisque c'est son arrière-arrière-grand-père, c'est celui qui a écrit Moby Dick quand même.
Ah, ça, je savais pas, par contre.
C'est pour ça qu'il s'appelle Moby.
D'accord, ok. Et oui, c'est ça aussi, quand on est fan de quelqu'un, on connaît sa vie sur le bout des doigts, j'ai l'impression, là, Christelle.
Oui, il est né le 11 septembre.
Ouais. dans le date.
En espérant qu'il écoute, je l'attends à la maison.
Il y a d'autres fans de Moby avec qui vous échangez parfois, Christelle?
Ah non, moi j'échange pas.
Non.
Ah non.
C'est vous et lui.
Ah bah oui, attendez. Mais le monsieur qui est fan de Prince, je l'adorais aussi, Prince. Un grand homme.
Ah bah oui, enfin grand.
Tout comme George Michael et... Ça, c'était de vrais grands hommes. Mais pour en revenir à Moby, puisque c'est lui
que vous aimez.
Je suis fan. Mm-hmm. Voilà. Et d'ailleurs, je suis passée avec Géraldine. Elle faisait des dédicaces dimanche. Et j'ai passé Moby et Mylène Farmer.
Ah d'accord, fan aussi.
Pas de Mylène Farmer, non. Mais
non, enfin, de Moby, oui.
Moby, le... Et c'est vraiment un personnage vraiment décalé. C'est peut-être pour ça. Enfin, non, mais je suis pas décalé du tout. Enfin, si, un petit peu.
Oh, mais parfois, faut pas forcément chercher à expliquer pourquoi on aime quelqu'un. Hein. Raphaël, quand on entend Christelle, elle sait beaucoup de choses sur l'histoire de Moby. Est-ce que quand on est fan, on est un peu le biographe officiel ou officieux de sa star? C'est-à-dire que quand quelqu'un vous dit quelque chose, ah non, c'est pas vrai, il est pas né là, Prince.
Il y a une période où on est comme ça. Mais il y a un moment, on arrête aussi d'ennuyer l'entourage, à les reprendre sans cesse. On comprend qu'il y a une scission qui se fait en ce que il est commun d'appeler le grand public et puis effectivement les fans entre eux. Je pense que si on s'intéresse à l'aspect biographique de l'artiste qu'on apprécie, c'est parfois pour combler le manque qu'il y a entre deux disques ou deux tournées. Et donc, on a toujours besoin d'alimenter sa passion et à un moment donné, s'intéresser au parcours de l'artiste qu'on suit et presque une évidence.
Vous dites on n'a pas forcément envie d'embêter l'entourage. Ça a été le cas à un moment donné. On vous a dit « Oh Raphaël, c'est bon avec Prince, ça va ?»
Bah, j'ai commencé très jeune, donc il y avait forcément l'arrogance de l'adolescence. Et puis c'est une passion obsédante, donc on a envie de la partager tout le temps comme une histoire d'amour. Et donc on a envie de le partager, de le faire savoir. Et on est assez intolérant avec les gens qui critiquent au début parce que c'est une attaque très personnelle. Quand on devient fan, c'est parce que le plaisir qu'on prend à lire le livre de l'auteur qu'on aime ou à voir les films ou à écouter des disques est supérieur au plaisir qu'on prend d'habitude. C'est quelque chose de très très intime. C'est-à-dire que les émotions qu'on a sont très intimes. Donc quand on attaque l'artiste que vous appréciez, on vous attaque directement. Donc c'est effectivement, on a des réactions vives. Après, on apprend à...
Comment on se retrouve à 13 ans? Donc vous découvrez Prince, il y a un premier choc, il y a un premier concert aussi. Et comment on se retrouve de ce petit adolescent de 13 ans fan de Prince au spécialiste, entre guillemets, de Prince? C'est-à-dire qu'il y a un an, au moment de son décès, on vous a vu absolument partout, on vous a entendu absolument partout aussi.
C'est pas quelque chose qui s'est construit de manière réfléchie, c'est plutôt un besoin, c'est-à-dire que j'ai ressenti le besoin de ne pas être passif. Je suis devenu actif assez rapidement, c'est-à-dire que j'ai d'abord participé à la création d'un serveur Minitel, donc ça me fait rire, et assez vite à Internet, et sur Internet j'ai créé un site, et plutôt que de faire un site de news, parce que j'avais pas à ce moment-là la possibilité d'avoir les actualités en direct des États-Unis, on a fait quelque chose de plus communautaire, c'est-à-dire pour permettre à des gens partout en France, et puis dans les pays francophones, de se retrouver. Parce que souvent, moi j'avais la chance d'être à Paris, mais souvent beaucoup de fans étaient isolés et pensaient être les seuls à aimer cet artiste, souvent critiqué. Et donc on a créé un site communautaire et grâce aux fans qui ont activement participé, ce site est devenu très important et donc nous a permis de recevoir des artistes de Minneapolis, de voyager fréquemment et donc voilà, de prendre une place un peu plus active au sein de cette communauté.
Christelle, merci de nous avoir appelé, d'avoir été la première à ouvrir cette émission sur les fans. On parlait de communauté sur Internet notamment. Si vous échangez avec d'autres fans du même artiste, si vous êtes, vous avez créé peut-être cette communauté justement, si vous avez fait des choses incroyables, parfois insensées, pour rencontrer votre artiste préféré, eh bien venez nous appeler, venez nous rejoindre surtout au 0810 055 056. Et puis on va parler aussi de toutes ces idoles qui sont parties à un moment donné. Comment on fait son deuil d'un artiste qu'on a tant aimé pendant des années, qui a pratiquement fait partie de la famille? 0810 055 056, on se dit tout, c'est jusqu'à 22h.
Le soir sur France Bleu, on se dit tout avec Vanessa Lambert.
Certaines stars vivantes ou disparues sont de véritables icônes et c'est peut-être votre histoire, vous qui êtes fan et qui ne comptez ni les heures ni votre argent pour l'approcher. Vous avez dépensé beaucoup en objets à l'effigie de votre star préférée, en tickets de concert, de spectacle, vous avez parcouru les routes de France et même à l'étranger pour le voir. Vous avez pu le ou la voir en vrai. Comment ça s'est passé justement cette rencontre? Est-ce que vous avez été enchanté ou un petit peu déçu? Et puis chez certains, ce fanatisme est très intérieur, il s'exprime peu. mais c'est quand même très très fort. On s'intéresse aux fans ce soir avec vous au 0810 055 056 avec Raphaël Melki, auteur de Purple Fame, histoire d'une addiction à Prince aux éditions Renaissance du Livre. Et ça tombe bien, on a une fan de Prince qui est avec nous, c'est Marilyn dans le Loiret. Bonsoir Marilyn.
Bonsoir.
Bah, quand deux fans de Prince se rencontrent, qu'est-ce qu'ils se disent ? Ils parlent de Prince forcément, non ?
Bah, tout à fait.
Ça a commencé quand, vous, Marilyn ?
Moi, en 88. Enfin, le premier concert a commencé en 88.
Mais, vous vouliez dire, mais ça a commencé avant ?
Parce que ça datait d'avant.
Ouais.
Enfin, j'étais toute jeunette, hein. J'avais 14-15 ans.
Ouais, à peu près comme Raphaël, finalement.
Bah
ouais.
Oui, on est de la même tranche d'âge et... Mais on se connaît plus ou moins.
Ah, entre fans, on se connaît, j'ai l'impression. Une grande communauté, oui.
Je fais un gros bisou.
Merci.
Moi, en fait, Rafi, ce que je voulais te poser comme question...
Direct, il y a une... Très bien.
C'est comment tu vis ça, maintenant ?
Maintenant,
le
genre
manque,
un an après le décès de Prince ?
Ouais.
Ben, je le vis. Si on se connaît, je m'exprime pas mal sur le sujet. Je le vis. C'est difficile comme question parce que si je réponds, je le vis mal, ça donne l'impression que je suis dans une dépression quotidienne. Or, je suis pas dans une dépression quotidienne, mais la notion de est-ce que c'est passé, est-ce que je suis passé à autre chose, est-ce que n'existe pas. Voilà, c'est-à-dire qu'on peut pas se détacher d'un artiste qu'on a suivi comme ça du jour au lendemain. On n'a pas envie de s'en détacher parce que on apprécie un artiste pour sa musique et la musique continue d'être là. Surtout avec cet artiste très prolifique où la musique va continuer d'être là. Mais le manque, on le ressentira toujours parce que c'était à l'intérieur de la joie qu'on avait là en l'occurrence d'aller le voir en concert. On intégrait plus que le plaisir d'aller voir un artiste en concert. Il y avait de la nostalgie, il y avait notre jeunesse, il y avait ce moment où on s'octroyait d'être complètement dingue, innocent, enfin on appelle ça comme on veut, et donc cette partie-là a disparu. Donc ça nous ramène à notre vie d'adulte qui peut être remplie, passionnante,
mais
intéressante.
Mais il n'y a plus ce petit
mais
truc.
Mais il n'y a plus ce supplément. Donc de toute façon, alors c'est vrai qu'on arrive, comme vous l'avez dit en introduction, à l'année au un an de son décès, mais la blessure est toujours la même, le manque est toujours le même et je vois difficilement comment il peut être comblé.
Et vous, Marilyn, vous le vivez comment, un an après, pratiquement ?
Bah moi, disons que ça faisait quelques années que je m'y attendais. Donc, j'étais pas enfin, j'étais surprise parce que j'étais plus ou moins dans le déni. Le voyant sur scène depuis plusieurs années, j'ai vu que ça allait de pire en pire, physiquement. Je veux dire, c'était une chose qu'il pouvait pas forcément cacher. Elle était flagrante. Bon, après, il y en a qui diront oui, non. Enfin, chacun compose comme il l'entend. Chacun aura sa propre lecture. Moi, je voyais que physiquement, c'était un artiste qui était sur le déclin physiquement. Pas intellectuellement, pas de façon créative, mais on voyait qu'il y avait quelque chose qui n'allait plus, quoi.
Et quand aujourd'hui on vous dit, mais pourquoi vous étiez fan de Prince, pourquoi vous êtes fan de Prince, vous sauriez l'expliquer ? Ça s'est passé comment, le déclic, la première fois ?
Le déclic, en fait, c'est d'être allé en 88 à un concert et d'être tombé en amour face à un musicien qui était complètement hors norme, qui avait un charisme absolu, qui avait dans ses mimiques, dans sa façon d'être, quelque chose qui vous happait, mais d'une force, je ne saurais l'expliquer, quoi. C'était physique, c'était charnel, c'était intellectuel, c'était quelque chose de très très fort. C'est-à-dire qu'il avait une telle générosité sur scène que, en un regard, il pouvait tout vous transmettre. Et le génie s'explique pas en fait, hein. C'est comme ça, c'est charnel, c'est...
J'aime bien, Raphaël, ce que dit Marilyn, il n'y a pas que la musique chez Prince, il y a ce côté aussi charnel, comme elle dit, il y a ce côté séduction, il y a ce côté provocation aussi.
Oui, mais elle dit aussi qu'il y a le génie, c'est-à-dire qu'on est quand même... On est quand même en face, alors je sais bien que tous les fans ont l'impression que l'artiste qu'ils suivent est unique, mais là on était quand même en face d'un ovni, on était quand même parmi les grandes icônes apparues entre guillemets dans les années 80 et qui ont perduré pendant des décennies. On n'est pas du tout en face juste d'un artiste de musique populaire, on est vraiment en face de quelqu'un reconnu par ses pairs, qui n'a cessé d'être impressionnant sur scène. Donc ce que Marilyn explique du personnage de scène, c'est exactement ça, c'est-à-dire que cette personne était tellement secrète, était tellement inaccessible, que le seul moment où vous pouviez avoir un échange avec lui, c'était lorsqu'il arrivait sur scène. Donc comme elle vient de le dire, quand enfin vous aviez ce eye contact, c'est-à-dire le moment où il vous regarde et où vous avez l'impression que les trois notes qui suivent, elles sont pour vous, il se passait tout ce qu'elle vient de dire. C'est-à-dire qu'il vous transmettait quelque chose. Là-dessus, je la rejoins complètement.
Des autres contacts, il y en a eu? Des vrais contacts? Des contacts entre un fan et...
Il y a plein de récits, on a la chance, comme vous dites, d'être une communauté, donc il y a plein de récits de gens qui sont allés de la poignée de main à un échange de mots, à parfois un peu plus. Rarement un dîner en tête-à-tête, enfin là je parle pas des rencontres amoureuses, mais je parle encore une fois de la relation fan-artiste. Non mais je parle justement de rencontres fan-artistes. Mais oui, il y avait des moments où il y avait une forme de générosité. Dans mon cas, elle a toujours été liée à la musique, c'est-à-dire que les moments où il octroyait un petit supplément par rapport à cette fidélité, c'était toujours lié à la musique.
On ne dépasse pas les limites de l'artiste.
En tout cas, dans ma relation avec lui, elles n'ont pas été dépassées.
Merci Marilyn d'être venue témoigner ce soir. Fan de Prince, vous aussi depuis 1988. On parle de vous qui êtes fan. Alors, c'est souvent lié à la musique. C'est souvent les chanteurs, nos premières idoles de jeunesse. Mais ça peut être un écrivain, ça peut être un homme politique, ça peut être un acteur, un sportif. Surtout, on va parler de ce qu'on ressent. Pourquoi, à un moment donné, on est fan d'un homme ou d'une femme plus que d'un autre? Comment ça se présente? Comment on le vit aussi dans l'entourage, dans la famille, avec les amis? Et puis comment ça se passe quand cet artiste n'est plus là, le jour du décès et après? 0810 055 056 pour nous rejoindre jusqu'à 22h.
Racontez-nous votre histoire. Ce soir, on se dit tout sur France Bleu avec Vanessa Lambert.
Tiens, puisqu'on écoutait Bob Marley, ça peut aussi être ça, être fan de quelqu'un qu'on n'a jamais connu de son vivant, puisqu'il est mort peut-être au moment de votre naissance. Ça peut être Bob Marley, ça peut être Elvis Presley, ça peut être Dean Martin, James Dean. Il y a des gens comme ça dont on est fan et qu'on n'a jamais vraiment connu, ils sont morts avant nous. Et malgré tout, il y a ce fanatisme, il y a ce rêve, il y a cette émotion. On parle des fans ce soir sur France Bleu, posters, autographes, objets à l'effigie de vos stars, discographie complète, sans parler des kilomètres que vous faites pour les voir en concert, en spectacle. Vous avez peut-être campé devant son hôtel, sa maison, vous êtes allé sur sa tombe. La parole est aux fans, racontez-nous comment ça a commencé et tout ce que vous avez déjà fait par amour pour votre idée. Le lien, parfois difficile à comprendre aussi pour les autres. 0810 055 056, on se dit tout en compagnie d'un fan comme vous. On parle même d'une addiction à Prince. C'est Raphaël Melki, auteur de Purple Fame aux éditions Renaissance du livre. Et c'est Sandrine qui nous a rejoint depuis Paris. Bonsoir Sandrine.
Bonsoir.
Alors vous, il y avait Bowie, il y avait Prince aussi, il y avait les deux.
Il y a d'abord eu Bowie quand j'avais 12 ans. Je suis passée dans une journée de Côte-François à David Bowie. Et c'est ma mère qui m'avait ramené un album et j'ai eu le choc de ma vie et ça a bouleversé toute ma conception de la musique et je me suis construite là-dessus. Je suis devenue complètement monomaniaque. Je n'écoutais plus que Bowie. J'avais 95 photos de Bowie dans ma chambre. Ma mère m'a amenée voir des psychiatres.
Ah ouais, quand même. Qu'est-ce qu'ils vous disaient, les psychiatres? C'est intéressant, ça.
Ah, il y a une conne qui m'a dit, qu'est-ce que c'est Bowie pour vous? Je lui ai dit, c'est un repère. Et elle m'a dit, ah oui, donc il y a le mot père. Alors que...
Ah ouais, d'accord, oui.
Ça n'a rien à voir avec mon père, enfin, bref. Et heureusement, le 25 août 86... Je pense que Raphaël Melki s'en rappelle, le Zénith, je suis allée voir Prince. Et là, j'ai rebasculé et j'ai eu droit à une deuxième chance, on va dire. Et j'ai eu une deuxième chance dans ma vie psychiatrique, on va dire. Non, je rigole. mais j'ai vu...
La même émotion que pour Bowie ou c'était une autre émotion?
Non, alors voilà, ce qui a été merveilleux pour moi, c'est qu'il y en avait vraiment un qui parlait avec du recul maintenant aujourd'hui. En plus, ils sont morts les deux la même année, ça a été pour moi une tragédie. Il y avait vraiment un qui était un artiste pour moi totalement cérébral, qui était Bowie. Et Prince, il parlait à mon corps, c'était le côté animal. Ça peut paraître con, mais...
Ah, c'est beau, moi j'aime bien ça comme explication.
Oui, je me suis vraiment construite là-dessus. Et vraiment, j'en ai pas honte, on s'est moqué de moi moult fois. Mais j'en suis fière parce qu'encore aujourd'hui, je réécoute ce que ces deux artistes ont fait et c'est tellement magique et magnifique que voilà quoi.
Je vous voyais Raphaël hocher de la tête quand Sandrine disait on s'est moqué de moi. Vous aussi, on s'est moqué de vous?
Alors moi, je me suis pas trop laissé faire, mais les fans sont moqués de manière générale. puisque ben, bien souvent, on les présente par les traits de caractère les plus surprenants. Donc, sans aller jusqu'à certaines caricatures dans certaines émissions, mais c'est vrai qu'on aime bien savoir quelles sont les pires choses qu'ils ont pu faire, ou on a besoin de montrer des faits. Donc, souvent, on les emmène chez des psys, comme Sandrine, apparemment.
C'est fou,
mais sinon, oui, souvent ils sont moqués, et parmi les Prince était un artiste assez décrié, hein. Il était petit, ou sinon vous écoutiez le PD, enfin, c'est des choses qu'on a beaucoup entendues dans les cours de récréation. Il y a des témoignages assez durs de gens qui disaient qu'ils avaient honte et qui se cachait. Donc, quand se cacher parce qu'on a envie d'écouter un artiste qu'on aime ou parce qu'on est passionné par de la musique, c'est quand même assez particulier.
Ouais, c'est un peu moche même.
Ouais, c'est assez moche. Ouais.
Et là, comme Sandrine, vous avez eu, vous, une double vie de fan où ça a été vraiment que Prince, parce que là, on voit bien qu'il y a eu Bowie, puis Prince. Est-ce que vous, c'était impossible qu'il y ait d'autres places pour un autre artiste ?
Oui, parce qu'après, j'étais fan de tout un tas d'autres choses. J'avais d'autres passions dans la vie.
Oui. Voilà. Mais il y a eu que Prince en tant que chanteur.
Oui, en tant que chanteur, oui. Non, mais Prince est un chanteur qui vous rend fan de la musique, en fait. Il vous fait aimer la musique par ses influences, de par...
Oui, vous le dites dans le livre, ça vous a ouvert.
Bien sûr, donc ça ouvre
beaucoup,
des portes. Ouais. Donc évidemment, je ne me suis jamais contenté d'écouter un artiste par son best-of. C'était quelque chose qui était inenvisageable pour moi. Si je rentrais dans la musique de quelqu'un, c'était par l'intégrale. Donc quand on commence à écouter Sly Stone, Stevie Wonder, James Brown, Hendrix, Santana ou autre, ça fait une quantité de disques. Sans parler de Miles Davis, du jazz ou de toutes les... du rap, du funk, enfin de tous les genres qu'il a pu visiter. Donc en fait, j'étais très fan de musique et donc j'ai écouté et suivi plein d'autres artistes, mais avec la ferveur que j'ai pu avoir pour Prince, c'était assez unique.
Et Sandrine, vous le dites, hein, ils sont morts tous les deux la même année, Prince et David Bowie.
C'était un cauchemar. Janvier 2016 pour Bowie, avril 2016 pour Prince. Moi, j'ai carrément vécu la pire année de ma vie. C'est con, mais ça peut paraître un peu puéril pour certaines personnes, mais j'assume totalement et avec fierté mes chagrins, mes joies et surtout tellement de bonheur. Ils m'ont tellement, tellement, tellement apporté de bonheur que j'ai touché des fonds aussi, hein, dans l'humiliation, à me voir arriver à 8h du matin devant des zéniths de Lille, par exemple, pour Bowie. J'étais la
et c'est pas du tout humiliant d'arriver à 8h du matin. Et 7h, alors c'est encore plus humiliant.
Ah, t'es con. Mais la deuxième personne arrivant à midi, j'étais quand même la première. Enfin voilà. Et puis l'espèce de course frénétique pour être la première.
La première dans la fosse.
Ah ben non, mais c'est-à-dire qu'il était impensable pour moi qu'il y ait quelqu'un entre le micro et l'artiste. Enfin, il y avait l'artiste.
Le micro et vous, ouais, voilà.
Les personnes de. En revanche, je n'ai jamais eu envie d'autographe, de trucs comme ça. Quelle horreur. Chacun reste à sa place. J'avais pas envie de les connaître. J'avais pas envie.
C'est quelque chose d'intérieur, en fait.
Complètement.
Ouais.
Complètement. Et vraiment, j'ai pas à rougir de ça parce que je trouve que ce sont deux grands génies, tous les deux, et il me manque énormément. Je remercie beaucoup monsieur Raphaël Melki qui nous aide beaucoup pour nous rassembler autour de ça.
Et il y a le livre en plus, là, vous allez pouvoir replonger dans les souvenirs en même temps, Sandrine, avec Purple Fame. Merci d'avoir été avec nous, d'être venue nous parler de cette double fan de Bowie et de Prince. Vous aussi, vous êtes fan. C'est quelque chose de très intérieur, peut-être, hein, on l'a entendu. C'est pas forcément avoir le plus de photos, le plus de CD ou le plus d'autographes. C'est quelque chose qui se vit de l'intérieur. C'est une histoire d'amour, presque. On essaye d'en parler. On n'arrive pas toujours à en parler. Les gens ne comprennent pas forcément ce qui se passe, d'ailleurs. Venez nous raconter votre histoire d'amour, vous aussi, avec votre idole, 0810 055 056.
Le soir, sur France Bleu, on se dit tout avec Vanessa Lambert.
Avant, quand on était fan, on allait à un concert, quand on avait la chance que son artiste passe dans notre ville, et éventuellement on envoyait une lettre à un fan club ou une maison de disques. Aujourd'hui, avec Internet et les réseaux sociaux, on n'a jamais été aussi proche de nos idoles. On les suit sur Facebook, Twitter, Instagram, avec la possibilité de voir des photos prises directement par l'artiste. Ça, c'est nouveau. Les temps changent, hein, c'est vrai, mais venez nous raconter le rapport que vous avez avec vos idoles, si vous êtes fan, les concerts, les déplacements, le merchandising, et on l'espère faire parfois la rencontre entre le fan et l'idole, mais pas toujours. On n'a pas forcément envie de lui parler, de le voir, de le toucher. On a peut-être peur d'être déçu aussi. C'est peut-être plus intérieur quand on voit l'artiste qu'on aime qui s'en va aussi. On parlait tout à l'heure du décès de Prince, celui de David Bowie. On peut parler de Michael Jackson, d'Elvis Presley. Comment vous avez vécu tout ça? Comment vous avez pu en parler, surtout autour de vous, sans qu'on vous traite de tous les noms, parce qu'on l'a vu aussi depuis le début de cette émission. 0810 055 056, on se dit tout avec Raphaël Melki, auteur de Purple Fame aux éditions Renaissance du livre. Et c'est maintenant Véronique qui est avec nous sur France Bleu depuis la Normandie. Bonsoir Véronique.
Bonsoir Vanessa, bonsoir Raphaël.
Alors
bonsoir.
Vous êtes fan de Pascal Obispo.
Eh oui, fan de Pascal Obispo.
Depuis combien de temps? Depuis ses tout débuts, plus que tout au monde ou
oui. Quasiment, parce qu'en fait, je me rappelle la toute première chanson que j'ai entendue, c'était Tombé pour elle.
Ouais.
Je me rappelle même du moment où j'ai entendu cette chanson, parce que ça fait tilt tout de suite. J'emmenais ma fille à l'école maternelle. Et à partir de ce moment-là, j'ai écouté régulièrement. Par contre, je suis pas allée tout de suite en concert, parce que bon, j'avais trois enfants, ils étaient petits, pas facile. Et j'ai commencé à aller en concert à partir de l'époque où il a fait le concert de Fans.
Justement, oui, où il reprenait toutes les idoles qu'il aimait, notamment Michel Polnareff.
Exactement. Et celui-ci, on est allé le voir deux fois avec une de mes collègues. Et à la suite, à chaque fois que Pascal Obispo essayait de se produire soit une émission de télévision, soit un concert, en général, on y allait une fois, deux fois. Mon amie y allait plus souvent que moi, mais quand je pouvais la suivre, je la suivais.
C'était quoi? C'était l'artiste, ses chansons, ou ça allait un petit peu plus loin aussi? Il y a quelque chose chez lui que vous aimez vraiment beaucoup?
Non, vraiment lui, parce qu'en fait, je pense que je suis addict à son timbre de voix. Quand ça va pas, allez hop, on se fout un petit album comme ça, histoire de se requinquer, et puis on est reparti, quoi. C'est la voix, et puis le personnage, le sourire. En plus, en concert, c'est quelqu'un d'ultra, ultra généreux, qui sort toujours derrière signer les autographes. Il n'y a pas un seul concert où il ne sort pas signer des autographes.
Hein. Il est sympa avec ses fans, Obispo?
Carrément.
Ouais.
Carrément gentil. Et puis on le sent, je veux dire, il y a vraiment cette générosité de l'artiste quand il est en concert. Il fait participer la salle, il y a de l'humour, voilà, il y a... Et puis c'est quand même 2h30, 3h de concert, quoi. Alors qu'il y en a qui font une heure et demie, et puis qui s'en vont. Il faut déjà être généreux, je pense, pour pouvoir faire ça.
Alors c'était quand le dernier concert d'Obispo? Il a fait une tournée symphonique, là, je crois, il n'y a pas longtemps.
Oui, c'est ça, c'est celle-ci.
D'accord. Donc c'est vous celle-ci. Y étiez.
On est allé à l'Olympia. Et mon amie est allée la voir, elle, une fois de plus à Rouen.
Ah oui, elle fait du rab un peu, hein?
Elle fait du rab, oui. Moi, en fait, voilà, j'y vais un petit peu moins qu'elle. Mais si elle peut en faire deux ou trois qui sont proches de notre domicile, elle fait les trois. Hein. En général, on en fait un à Paris. On a fait aussi les Enfoirés, quand ils se produisaient aux Enfoirés. Et on a fait des émissions de télévision aussi, quand il y avait des shows.
Vous comprenez, ça, Raphaël, ce besoin aussi de la scène, ce besoin de voir, d'entendre, de vivre autre chose. Le live, c'est complètement différent des albums. Vous le racontez, votre premier live, ça a été le choc total avec Prince.
Bah, je pense que le live, quand on est fan d'un artiste musical, c'est l'apothéose. C'est le moment où on est en face de lui. C'est-à-dire, c'est le moment, quand vous êtes plus jeune et que vous avez des posters, vous avez les posters qui prennent vie. Enfin, moi, à 13 ans, j'ai pas de posters, mais c'était ça. C'était des artistes qui paraissaient inaccessibles. Et d'un coup, ils sont devant vous et vous les voyez, réellement exercer leur art.
Ouais.
Donc quand vous avez en plus la chance de suivre des artistes qui sont des bêtes de scène ou qui ont une proposition à faire sur scène, nécessairement les émotions sont décuplées et vous avez envie de reproduire. Je comprends tout à fait l'ami de Véronique qui essaye de voir plusieurs dates. Enfin, on a tous essayé de faire
ça. Vous le racontez très bien et c'est très émouvant dans votre livre, Raphaël. Et je pense que tous ceux qui ont eu à un moment donné de l'amour, de la passion pour un artiste qui fait de la scène, ce côté, une fois que le concert est terminé, c'est à la fois wow, c'était génial, et puis en même temps, quoi, c'est déjà fini, c'est passé tellement vite.
Ah, mais il y a une descente parfois qui est très douloureuse. C'est pour ça que je parle aussi d'addiction. C'est parce que le concert, au début, quand c'est quelque chose de rare, et parfois d'assez cher hein, pour bah, différentes périodes de son budget ou pour certaines personnes. C'est quelque chose qu'on attend. Alors on attend ça pendant des mois, on se l'imagine, on attend ce moment. Ce moment arrive, il est brûlé très très vite, même pour un concert de 2 ou 3 heures, ça va très très vite. Et le lendemain, bah, il y a plus cette attente, il y a déjà un souvenir, on ne sait pas quand ça va se reproduire. Et donc nécessairement, on a un grand vide.
Vous l'avez ressenti ça, Véronique ? Vous comprenez tout ça, Véronique, ce côté
Je comprends. Bah oui, ouais. Je comprends totalement. Hein, quand on réserve 6 mois, 8 mois ou 1 an à l'avance, c'est place. Et puis qu'on attend avec impatience de découvrir ce qu'il a fait de nouveau. On a déjà entendu les chansons, mais bon, c'est sûr que quand on les entend sur CD, qu'on les voit sur scène, c'est différent. On était allé voir aussi la comédie musicale Adam et Ève qu'il avait produite.
Ah oui, donc vous êtes vraiment, vous élargissez, c'est pas
même,
que Obispo,
oui.
C'est Obispo and Friends, un peu.
C'est ça,
un
petit
peu quand même.
Oui, non mais il n'est pas tout seul sur scène.
Je peux vous poser une question un peu indiscrète, Véronique ?
Oui.
Est-ce que vous fantasmez aussi sur l'homme Obispo ?
Non, pas vraiment.
Oh,
non,
pas vraiment. Je suis déçue là.
Non, mais je peux dire quand même, il a, pour moi, c'est son sourire qui m'a fait craquer quand je l'ai vu à la télévision chanter Lucie, par exemple. Mm. Il a un sourire à tomber par terre, Obispo.
Ah, puis il sourit avec ses yeux aussi, c'est craquant, hein.
Ah, bah oui, carrément.
Ah, bah oui, je suis d'accord.
Mais, je veux dire, fantasmer, non, mais je dirais bon, par exemple, un free hug, voilà, je dirais pas non.
Ah ouais, un gros câlin avec Obispo, allez.
C'est ça, voilà, allez, pourquoi pas.
Ah, bah voilà, non, bah, mais... c'est lancé. Voilà, qu'est-ce que vous dites, Raphaël ?
Votre copine un peu plus, peut-être.
Ah, la copine, elle est ah, plus tactile.
Allez-y, dénoncez.
Ah ouais, non, mais elle s'est fait un tatouage dans le cou. Ah ouais, non, mais elle est, je pense qu'elle est un petit peu plus addicte que moi.
Un petit peu amoureuse, on peut le dire.
Peut-être.
Ah bah oui, moi n'ayons pas peur. Hein. Vous savez, quand on est fan, il y a cette notion d'amour aussi. Il faut pas avoir honte, on a décidé d'en parler ce soir, c'est bien fait pour ça. Hein. Merci beaucoup Véronique d'être venue témoigner ce soir et on embrasse tous les fans d'Obispo. Je sais que vous êtes nombreux sur France Bleu parce qu'on adore Pascal Obispo. Et on était d'ailleurs partenaire de sa dernière tournée. À bientôt Véronique.
À bientôt, merci Vanessa.
Au revoir.
Au revoir.
Si vous aussi vous êtes fan, venez nous rejoindre, venez nous parler de ces moments précieux, ces moments intense aussi que vous avez pu vivre sur scène si c'est un chanteur, mais on peut parler aussi d'acteurs, on peut parler de sportifs, on peut parler d'écrivains, même s'il n'y a pas la même émotion, la même adrénaline qu'on peut ressentir que pendant un concert. 0810 055 056 et puis parlez-nous aussi de ces idoles qui sont peut-être parties trop tôt et avec le grand vide qu'il y a aussi derrière, c'est le cas de notre invité Raphaël Melki, auteur de Purple Fame et fan de Prince.
Le soir sur France Bleu, on se dit tout avec Vanessa Lambert.
Vous êtes fan et vous le revendiquez, quitte à prendre des jours de congé pour aller le voir en concert, le suivre sur un plateau télé, quitte à prendre des risques pour l'approcher de plus près, quitte à pleurer pendant des heures et des jours entiers aussi, sans savoir vraiment pourquoi. Amour, passion, adoration, déception, vous êtes fan et vous avez de sacrées histoires à nous raconter. Eh bien, on vous attend au 0810 055 056 avec un fan, Raphaël Melki, fan de Prince et auteur de Purple Fame, histoire d'une addiction à Prince. Purple Fame, le titre en rapport avec la famille, c'est vraiment une famille quand on est fan, ça a été le cas pour vous ?
Tout à fait, et c'est surtout la dénomination qu'il donnait à son public, il ne voulait pas parler de fan à cause du diminutif.
Un côté un peu fanatique.
Exactement, il préférait lui-même parler d'une famille pour tous ces gens qui lui étaient fidèles, parce qu'il y a un moment où on l'a un peu moins vu médiatiquement, et il a continué de sa carrière pourtant de manière très très active, et nous étions derrière lui.
Anne-Sophie est avec nous dans la Manche. Bonsoir Anne-Sophie.
Bonsoir.
Alors vous, c'est étonnant, vous êtes fan de Spider-Man.
Exactement. Depuis plus de une quinzaine d'années aussi, donc je me reconnais dans les témoignages que vous avez ce soir, même s'il s'agit évidemment d'un personnage de fiction.
Oui, c'est ça ce que j'allais dire. Mais c'est-à-dire que vous êtes fan comment ? Comment on devient fan de Spider-Man et comment ça se présente finalement ?
Alors c'est-à-dire typiquement ce que raconte Raphaël dans son livre, ou ce que racontent certains témoignages que vous avez eus, la claque. Moi, j'ai eu une claque en visionnant, j'étais même pas allée le voir au ciné, hein, j'ai reçu pour Noël le DVD du film Spider-Man 1 de Sam Raimi, Et je lance le DVD vraiment sans conviction, sans penser du tout qu'il allait se passer ça. Et la première scène, c'est une scène d'humiliation d'un adolescent dans un bus, donc un truc assez commun. Et j'ai pris une claque immédiate, il a pas encore le costume, il vole pas entre les gratte-ciels. Et à partir de là, j'ai commencé à essayer de retrouver le personnage dans d'autres supports. Et effectivement, c'est évidemment un personnage de bande dessinée et de comic book américain au premier chef. Et donc, il a été facile de me nourrir d'un tas de supports, de choses différentes. C'est un personnage qui est très très connu et qui existe depuis les années 60. Hein. Donc il y avait ce qui avait été fait avant et ses aventures contemporaines.
Mais Anne-Sophie, ce que je comprends pas, c'est que si on se base sur le cinéma, par exemple, il y a plein d'acteurs différents qui ont incarné Spider-Man. Comment vous faites à ce moment-là pour mettre de côté ces visages-là?
Sur le visage, évidemment, mais pour moi, mais c'est, là aussi, hein, c'est parce que je l'ai découvert à travers lui. Pour moi, c'est Tobey Maguire presque obligé, mais j'ai bien aimé Andrew Garfield dans le rôle. Et de toute façon, c'est pas l'acteur qui l'incarne. C'est moi, celui qui m'intéresse, c'est Peter Parker. Et c'est la façon dont il peut raisonner, parfois sur des trucs qui relèvent de l'actualité. Hein. Je me dis, tiens, comment ce personnage raisonnerait et tout. C'est un peu fou, mais c'est exact. Enfin, c'est une réalité, même si là, pour le coup, il n'existe pas. Mais il y a tellement d'équipes artistiques qui se sont penchées sur son cas au fil des années qu'il y a une substance. Il y a un matériel énorme, mais il y a une substance, il a une existence, une forme d'existence au travers tout ça, quand même. Même si, évidemment, c'est difficile, je risque pas d'aller camper devant sa porte.
Oui, puis faites attention, parce qu'il risquerait de sortir par le plafond. Oui, c'est ça. Vous comprenez, Raphaël, qu'on puisse finalement comparer, être fan d'un chanteur et être fan de Spider-Man. En tout cas, Anne-Sophie, comme elle en parle, il y a vraiment ce petit quelque chose... Début, cette claque dont elle parle et dont vous parlez vous aussi, ça peut se rapprocher. Hein.
Mais je comprends tout à fait. Elle vient de le dire, même si elle a commencé avec un film, comme elle le dit, c'est un personnage de comic book. La BD a son lot de fans depuis toujours. Enfin, que ce soit la BD belge comme Tintin et compagnie, ou Spider-Man, ou les comics américains, avec tout son lot de produits dérivés, de t-shirts. Et d'autres fétiches.
C'est un musée chez vous, Anne-Sophie? C'est un musée Spider-Man ou pas?
Oui, on peut dire ça, ouais. Oui, il y a dans ma chambre, il y a la bibliothèque pleine de bandes dessinées et puis les jouets, des produits dérivés de toutes sortes, plus ou moins bien emballés, plus ou moins qui trônent. Oui, bien sûr, même à 30 ans, des lithographies un peu d'artistes, mais sur le personnage, ouais, vraiment.
Vous avez un amoureux dans la vie?
Oui.
Alors comment il vit cette concurrence avec Spider-Man?
Il a lui-même ses passions, donc il est...
Il comprend.
Il comprend, oui. Il n'est pas fan de comic book, donc on n'est pas, à la Japan Expo, tous les deux avec un t-shirt de super-héros. Mais il comprend facilement l'addiction et les passions comme ça dévorantes, sans problème.
Alors chez Anne-Sophie, on trouve du Spider-Man partout. Chez vous, Raphaël, c'est pas le cas. C'est pas un musée Prince chez vous, vous le dites dans votre livre.
C'est pas un musée immédiatement compréhensible par le tout venant. J'ai plus de 2000 et quelques CD, plusieurs centaines de vinyles, et à l'intérieur, une très très grande partie est consacrée à Prince et aux artistes associés. Donc si on commence à se pencher sur ces étagères-là,
on se rend compte. Oui.
Après, non, j'ai pas de poster au mur, mais j'ai quelques objets qui peuvent être identifiables. Pour ceux qui s'y connaissent.
Mais pourquoi
un peu.
Pas de posters, par exemple?
Parce que j'ai eu des posters. J'ai eu une chambre d'adolescent qui ressemblait à tout ce qu'on peut imaginer, une chambre d'adolescent, avec des posters au mur. Puis quand les murs sont pleins, on fait le plafond. Donc non, j'ai vraiment eu ça.
Il y a vraiment eu ça. Mais c'est une
autre
époque.
Et puis il y a un moment, je suis ravi, mais comme vous voyez, j'ai pris quelques décennies depuis. 13 ans. Et donc, il y a un moment, quand vous emménagez dans votre appartement d'adulte, vous le pensez un tout petit peu différemment, même si j'ai quelques personnages au mur. Mais au risque de surprendre, j'ai plus de Gainsbourg sur mes murs que de Prince.
Ah ouais, comme quoi. Et Anne-Sophie, on parlait de votre amoureux qui comprend votre passion. Est-ce que dans votre entourage, vos amis, ils comprennent que vous soyez fan de Spider-Man?
Alors, pour ma famille, par exemple, mon père, il y a déjà 10 ans, donc c'était il y a 15 ans que est née cette passion, il y a déjà 10 ans, il me disait, mais tu vas te lasser, parce que je pensais à me faire des tatouages, je pensais à plein de choses, et puis j'avais pas beaucoup d'argent, mais je mettais beaucoup mon argent là-dedans et tout, et il me disait, mais ce sera derrière toi, tu regarderas ça en 10 ans, et puis je suis ravie de voir que ça part pas complètement, même si évidemment là aujourd'hui avec le travail, je peux pas lire autant que je lisais avant, ou y consacrer autant de temps et penser qu'à ça comme c'était le cas avant. Maintenant effectivement il y a mon amoureux, il y a d'autres choses, mais ça reste un truc vraiment fondamental et important, et on rigole pas avec ça. Donc effectivement je me serais, quand j'étais à la fac, les gens me regardaient un peu, mais en même temps, la culture geek, parce que c'est une passion qui peut se rappeler à la culture geek, elle est quand même très en vogue en ce moment. Donc là, aujourd'hui, dire je suis fan de comic book et fan de Spider-Man, c'est pas...
Ouais, ça passe bien.
Oui, ça passe assez bien.
C'est vrai.
C'est pas stigmatisant.
Anne-Sophie, merci beaucoup d'être venue témoigner ce soir dans On se dit tout, et continuer d'être fan de Spider-Man et d'en parler avec autant de passion et d'enthousiasme. Surtout, ça fait vraiment du bien. Hein, c'est vrai, de la ferveur, c'est le mot. À bientôt, Anne-Sophie. Au revoir.
Au revoir.
0810 055 056, c'est le numéro d'On se dit tout pour nous parler de vous. Vous qui êtes fan, on a eu une fan de Prince, on a eu une fan de Prince et de David Bowie, une fan de Pascal Obispo, une fan de Moby, fan de Spider-Man à l'instant. Et puis notre grand témoin est un grand fan de Prince, auteur de Purple Fame, histoire d'une addiction à Prince. C'est aux éditions Renaissance du livre. Et vous, vous êtes fan aussi, ça se présente comment? Est-ce que ça a été compliqué parfois à assumer, de pouvoir en parler aussi? Les autres ne comprennent pas toujours très très bien ce qui se passe. Et puis parlez-nous de ces claques, de ces déclics, de ces histoires presque d'amour, hein, de dévotion pour quelqu'un. 0810 055 056, à tout de suite.
Le soir sur France Bleu, on se dit tout.
Claude François, Mike Brandt, Michael Jackson, Elvis Presley, Serge Gainsbourg, Jim Morrison, vous êtes peut-être fan de ces chanteurs aujourd'hui disparus, vous leur vouez un culte incroyable, vous allez sur leur tombe, vous gardez des souvenirs d'eux, vous les avez approchés en vrai. Venez nous en parler ce soir sur France Bleu, on s'intéresse aussi à des vedettes plus contemporaines, heureusement bien sûr, Mylène Farmer, Indochine, Étienne Dao, qui ont leurs fans bien à eux, chansons, cinéma, télévision, sport, vous avez fait des choses incroyables pour les rencontrer, vous les avez aimé tout simplement, et ça c'est très fort et personne ne pourra vous le prendre. On se dit tout au 0810 055 056, avec Raphaël Melki, auteur de Purple Fame, histoire d'une addiction à Prince, aux éditions Renaissance du livre. Et c'est Sarah qui est avec nous maintenant depuis Paris. Bonsoir Sarah.
Bonsoir.
Vous êtes fan d'Enrico Macias.
Oui.
Mais depuis quand? Vous avez une voix très jeune, Sarah.
Mais j'ai 35 ans, ce qui est plus si jeune que ça, malheureusement.
35 ans, mais vous êtes toute jeune. C'est-à-dire que le décalage entre fan d'Enrico Macias, et j'ai 35 ans, vous voyez, généralement, d'Enrico, ils sont un peu plus âgés que vous, Sarah.
Généralement, mais c'est de famille, on va dire. Donc, j'ai baigné dedans étant toute petite. Et pour ne rien vous cacher, mon premier contact avec sa musique et déjà le côté un peu folle et un peu fan, j'avais 4 ans. Donc ça remonte.
Mais à 4 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Ça a été un choc aussi musical? Il y a eu quelque chose?
Alors déjà à 4 ans, mon père écoutait sa musique, donc je baignais dedans. Vous imaginez une petite gamine de 4 ans dans sa petite robe en train de danser sur le mendiant de l'amour. Voilà. Et on m'a lamentablement utilisé, je dois le dire, dans des soirées de charité pour récolter de l'argent pour des œuvres, en me faisant danser sur cette chanson qui disait quand même donnez, donnez, donnez-moi. Voilà. Donc moi, dans ma petite robe blanche, en train de passer entre des tables de galas de charité, comme vous pouvez imaginer, le tout sur donnez-moi. Voilà. Mais j'avais beaucoup de succès, hein. Ça a marché très bien.
Ah ouais, ça marchait bien, ça. Mais alors, quand vous êtes petite, j'imagine, souvent on écoute ce qu'écoutent les parents quand on est tout petit, mais ensuite, en grandissant, comment ça reste?
Ensuite, en fait, j'ai continué, mais alors je pense qu'il y avait une part de nostalgie, une part de, un peu de rigolade peut-être, une part de souvenir peut-être de ce que ça a rappelé. Mais quand même, ça m'a poursuivi un petit moment parce que j'avais autour de déjà 9-10 ans, j'essayais absolument d'avoir son autographe. Et puis finalement, quelqu'un autour de moi a réussi à me l'avoir. Et alors là, je l'ai conservé jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. C'était le plus beau cadeau qu'on pouvait me faire. Et puis, la vie a mis devant moi un hasard un petit peu sympathique parce que le premier job que j'ai eu, mais celui dans lequel je suis quand même restée 10 ans et demi, il se trouve que j'ai été amenée à travailler là où Enrico Macias habite. En fait, dans le même immeuble, ma société avait ses locaux.
Vous l'avez su très vite?
Lui était au 6e.
Vous l'avez su très vite en arrivant?
Mais en fait, pas si vite que ça, parce que c'était un bureau où un immeuble où on se croisait pas forcément. Sauf qu'un jour, j'arrive en bas de l'immeuble, je vais pour taper le code, et là, qui arrive devant moi? Enrico Macias, quoi.
Et alors?
Bah alors là, bon, entre la syncope et le fait de réussir à articuler un truc, genre mais qu'est-ce qu'il fout là, je monte au bureau, voilà, en mode mais vous vous rendez pas compte que j'ai vu Enrico Macias, et là tout le monde me dévisage dans le bureau en disant mais évidemment il habite ici.
Normal.
Voilà. Normal, mais parfaitement normal, quoi. Et là, je leur ai dit, mais vous vous rendez pas compte à quel point c'est pas normal, en fait. Enfin, c'est Enrico. Et voilà. Et alors après, bon, comme j'ai quand même bossé 10 ans et demi, se sont suivis pas mal de fois, finalement, où je l'ai croisé, où on a échangé quelques mots, où, voilà. Je faisais régulièrement le code pour lui parce qu'il oubliait systématiquement le code, donc il se retrouvait coincé. Voilà.
Alors, Sarah, ça fait quoi de parler l'air de rien en faisant le code à quelqu'un qu'on admire?
C'est assez rigolo, sauf que en 10 ans et demi, je me suis bien gardée de lui dire une seule fois que je l'admirais.
Mais pourquoi ?
Parce que je voulais pas avoir l'air ridicule, et je me suis dit qu'il devait en avoir marre des gens qui le reconnaissaient et l'abordaient uniquement entre guillemets parce qu'il était Enrico Macias. Et du coup, je lui parlais de presque tout sauf de lui-même.
Ça, c'est le double effet qui se coule, j'ai envie de dire, des fans. Il y a ceux qui ont envie de l'approcher, de le toucher, de lui parler, de lui dire je t'aime, et puis ceux qui vont garder vraiment ça de façon très intérieure, Raphaël.
Probablement, je pense que comme on l'a dit tout au long de l'émission, c'est quelque chose qui est proche de la relation amoureuse, donc on a tous une manière différente d'aimer. Et après, je pense que aussi les fans diffèrent en fonction des artistes. Je pense que tous les artistes n'ont pas la même typologie de fans et le même type de fans. Bien sûr, il y a toujours un petit groupe de groupies qui va crier, de gens qui veulent la chemise, enfin ces images assez caricaturales ou un autographe. Mais en règle générale, les gens qui sont fidèles aux artistes ont un rapport très différent, et il y a des artistes dont on ne se voit même pas les approcher parce qu'ils paraissent inaccessibles. Et il y en a d'autres qui jouent à l'inverse. Même, je parle de stars importantes, mais qui jouent la proximité, qui montrent que ils s'intéressent soit à ce que font les fans, que ce soit des sites ou de la graphique ou autre. Michael Jackson s'est intéressé à ce que les fans français avaient fait, les fans du fan club français avaient fait. Il leur a confié des pochettes. Donc il y a des artistes qui jouent cette relation et d'autres moins.
Et Prince, il était comment?
Prince c'était assez particulier. Disons qu'il y avait une distance constante, et en même temps il n'arrêtait pas de créer beaucoup pour les fans. Quand il mettait une chanson un matin sur internet, il savait que ça n'allait pas toucher le grand public et que ça allait être pour ses fans. Quand il ouvrait son studio en annonçant ça une heure avant et qu'il y avait une soirée chez lui entre guillemets, puisque son studio était aussi parfois chez lui, il y avait que des fans qui y allaient. Donc il y avait, voilà, à chaque fois, lui, le rapport qu'il avait avec les fans était lié à la musique. Mais pour revenir à Sarah, je comprends tout à fait qu'on soit fan d'Enrico Macias. Je vois que ça surprend ici, mais moi je le comprends tout à fait.
C'est quelqu'un qui a l'air très chaleureux et très sympathique, vous confirmez, Sarah ?
Oui, mais sincèrement, enfin, il est très accessible, en fait. Enfin, les fois où je l'ai croisé, il avait l'air, en tout cas, tout à fait disposé à parler, à échanger quelques mots. Voilà, il m'a demandé où je travaillais, ce que je faisais. Enfin, voilà, il était très simple, en fait. Voilà. Et je pense que d'un certain côté, il y avait entre nous un côté où, bon, par définition, j'avais pas eu besoin de lui demander ce qu'il faisait et qui il était.
Oui, a priori.
Lui, voilà. Mais il y avait une sorte de, enfin, pas complicité, c'est un mot un peu fort.
De respect, voilà, ça s'entend, juste, de respect l'un envers l'autre, en tout cas, ça,
oui,
j'ai l'impression.
D'un certain côté, et j'ai envie de penser qu'il savait très bien que je savais qui il était, et peut-être même qu'il savait que j'étais fan, mais que, voilà, j'allais pas aller en mode frontal en lui disant, ah, Enrico, je vous adore, mes parents vous aiment, je vous aime, chantez-moi quelque chose.
Voilà. Ouais, parce qu'en plus, souvent, la conversation peut s'arrêter là. Genre, je vous aime bien, c'est chouette, merci, au revoir. Si on ouvre sur autre chose, on peut se dire, on peut garder la personne un peu plus longtemps.
Peut-être. Ouais, peut-être. Peut-être. Mais c'est vrai que, bon, voilà, ce qui m'a marqué aussi, c'est qu'il se souvenait, entre guillemets, de moi d'une fois à l'autre. Alors, bon, je le voyais pas non plus tous les jours, je le voyais une fois de temps en temps. Et voilà, et il se souvenait, voilà, il me demandait des nouvelles, de quelque chose dont je lui avais parlé la fois d'avant, voilà. Donc c'est quand même quelqu'un qui était aussi assez accessible et assez sympa, quoi.
Ouais, ça s'entend. Sarah, merci beaucoup d'être venue nous parler d'Enrico Macias ce soir sur France Bleu. On parle des fans jusqu'à 22h. Si depuis le début de l'émission, vous êtes à la maison et que vous dites « Oh non, mais je vais pas appeler pour raconter ça quand même », Bah si, vous allez nous appeler pour nous raconter ça, bien sûr que si. Si vous êtes fan alors, de quelqu'un toujours vivant ou de quelqu'un qui est décédé, on peut aussi parler de ces artistes dont on est fan alors qu'on les a jamais connus. On parlait des Beatles tout à l'heure, c'est très rare hein, d'avoir vu les Beatles sur scène, d'avoir vu Elvis Presley sur scène aussi. On a eu Bob Marley aussi tout à l'heure. On parle de ces grands artistes qui peut-être sont toujours un peu en vous, même s'ils sont partis. On parle du décès aussi des stars, de ce moment tragique, de ce jour tragique où vous avez perdu un peu quelqu'un de votre famille, qui faisait partie de votre vie. 0810 055 056, on vous attend sur France Bleu jusqu'à 22h.
Le soir sur France Bleu, on se dit tout avec Vanessa Lambert.
Vous êtes ce que l'on appelle fou d'amour pour votre star préférée, à tel point que ça vous pose des soucis dans votre couple, que vous êtes l'objet de railleries sur votre lieu de travail, mais peu importe, vous êtes fan, vous l'assumez, et on en parle ce soir sur le phénomène des fans, les chanteurs bien sûr, hein, c'est la principale d'ailleurs source d'inspiration depuis le début de la soirée, mais ça marche pour les acteurs, les sportifs, concerts privés, séances de dédicaces, vous l'avez même approché de près, vous avez été dévasté après son décès. Venez nous rejoindre, 0810 055 056, c'est le numéro d'On se dit tout. Et c'est Raphaël Melki qui nous accompagne ce soir, fan de Prince et auteur de Purple Fame aux éditions Renaissance. Du livre, on va parler maintenant de William Scheller avec Gérard qui nous appelle depuis l'Auvergne. Bonsoir Gérard.
Bonsoir Vanessa.
Soyez le bienvenu Gérard. Merci. Avec une jolie histoire de fan. C'est vous oui. Le fan de William Scheller alors?
Absolument, et je le suis encore toujours, même si actuellement il se fait un peu plus que discret sur sa vie publique. Et enfin, si j'ai un peu de temps, je vous raconterai ce que je sais. Alors voilà, je vais essayer d'être bref et concis. Lorsque Scheller, William a commencé sa carrière, c'était dans les années 75, j'ai été assez fasciné, moi qui suis normalement fan des Beatles, mais alors accro aussi, par cette fraîcheur qu'il dégageait. Et même à l'époque où c'était un peu le disco, les Frédéric François et j'en passe, il apportait une nouvelle ligne de musique qui m'a accroché. Et alors à l'époque, les 45 tours, puisque c'était sur un 45, le revers du 45 tours, on pouvait trouver l'adresse, on pouvait écrire. Et alors, je lui ai fait une petite lettre, mais en disant que j'aimais beaucoup ce qu'il faisait, parce que j'étais dans la gendarmerie mobile. Et je lui expliquais, mais je lui dis que bon, je ne suis pas du genre, vous savez, à dire t'es le plus beau, t'es le meilleur, etc. Voilà. Et puis, il m'a envoyé une carte, il m'a répondu, et j'étais très surpris, parce que je pensais que même si quelqu'un devait répondre, ça ne serait pas lui, ça serait son secrétariat. Il m'a répondu, et à la suite de ça, on est resté assez longtemps sans se voir. Je suis allé le voir en concert à Clermont-Ferrand, deux fois. Et puis, j'avais rencontré... alors, pareil, à l'issue des concerts, j'avais pu l'approcher. On nous demandait si on pouvait aller le rencontrer. Et j'avais pris, comme si je peux dire, comme coupe-fil, la petite carte qu'il m'avait laissée. Et puis, en 2003, avec ma...
2003 qui... Ah oui, d'accord, il se passe beaucoup de temps, alors.
Oui. Entre-temps, je l'avais vu en 84, dans une radio privée qui est devenue après Europe 2, qui s'appelait le Poste Parisien. Et donc, je l'ai vu en concert en 89. Et puis, on est resté quelques temps, je vous dis, sans se voir. Et en 2003, effectivement, avec celle qui allait devenir ma femme, nous montions sur les plages du débarquement et nous faisions une étape à Radio France, puisque je connaissais deux journalistes, dont Christophe Ondelat, pour voir et pour manger ensemble. Et à l'époque, le journal de France Inter était partagé en deux, donc il y avait le 13-14, donc de 13h à 13h30, c'était les infos, et de 13h30 à 14h, il y avait un invité qui faisait l'actualité.
Et c'était William Scheller.
Alors là, c'était vraiment... Frédéric Barrère m'a dit, mais écoutez, monsieur Scheller est dans le couloir. Et c'est vrai que quand je l'ai vu, j'étais assez fasciné, parce que je l'avais vu sur scène, mais pas de si près. Et je me suis approché très, très timidement. en lui disant, voilà, je vous ai vu déjà en concert, etc. Il me dit, mais votre tête me dit quelque chose. Alors, je lui ai présenté ma femme, qui, elle, normalement, est très timide, et qui a dit, écoutez, très enchanté, monsieur Scheller, de vous rencontrer. Et si un jour vous passez chez moi, ce sera avec plaisir que je vous recevrai. Et allez, c'était le début d'Internet. Alors, je lui avais laissé une petite carte de visite, avec mon adresse mail. Et il m'a dit, ah, vous avez le mail. Mais vous savez, à l'époque, il n'y avait même pas de... C'était encore en mégabit, hein. Il n'y avait pas les gigas, enfin,
ouais.
C'était un modem qu'on mettait, etc. Et puis, donc on avait fait les plages de débarquement, et puis en rentrant, j'habitais à l'époque là, du côté de Montélimar, et puis ma femme me dit, tiens, regarde si Scheller, t'as écrit, bon, j'étais pas très... Et puis je vois William Scheller contact, alors il m'avait laissé son numéro de téléphone, et à la suite de ça, ben moi je partais en Nouvelle-Calédonie, et... Il y avait Monsieur Chirac qui était là-bas et savait un peu friter avec les Kanaks. Et il avait téléphoné à ma femme en disant qu'il avait vu, etc. Et en 2004, alors il nous a quand même, on est allé le voir chez lui en Sologne. Voilà. Et régulièrement, après, on allait le voir en concert.
Et vous alliez le voir chez lui, enfin, comme un copain.
Alors, on était le voir chez lui, oui, oui. Et il nous a invités à manger. Et même, il nous proposait même de dormir.
Alors, moi, j'ai une vraie question pour vous, Gérard. À un moment donné, quand on est fan et qu'on se retrouve à être amis, est-ce qu'il n'y a pas un truc un peu bizarre qui se passe?
On réalise pas sur le coup. Parce que on voit toujours cette personne qui est sur, et même si vous voulez après les concerts, parce qu'on assistait au concert et ensuite on allait ce qu'on appelle l'after, on allait le voir dans les coulisses avec son régisseur, on buvait du champagne, soit du jus d'orange, etc. Il était fatigué, c'était ça, mais parce qu'il.
Et vous répondez pas à ma question, Gérard.
Excusez-moi.
Je vous dis, quand on est fan de quelqu'un et qu'on se retrouve dans un cercle plus intime, qu'on devient presque ami, il n'y a pas quelque chose de bizarre?
C'est ce que je vous dis. On est très. C'est ce que je vous dis. C'est parce que on ne réalise pas. Et quand on est dans le public, on se met comme si on était public. Et après, quand on va et qu'on rencontre, qu'on le voit, qu'une fois qu'il est sorti de son contexte musical public, c'est très très. C'est un rêve, quoi. Parce que je me souviens de ces disques. Moi, j'achetais à l'époque les 45 tours, les 33 tours. Et puis, le premier, j'ai eu la chance de, son disque est pur. Je l'ai eu bien avant les autres. Il sortait de son ordinateur. Il était même pas encore mixé et tout. Il me l'a signé. Et,
ça, c'est chouette, ouais.
Et là, il nous a même offert son intégrale, la première intégrale, là, où il y a 17 CD, dont, où il est dans sa maison, parce que pour vous informer, il n'est pas propriétaire de ses maisons.
Oh, mais moi je veux pas savoir ça, Gérard. Ah non, là ça rentre dans la vie privée de l'artiste et ça nous intéresse pas. Gérard, je vous coupe deux secondes pour laisser la parole quand même à notre grand témoin, Raphaël Melki. Est-ce que c'est le fantasme de tout fan d'être l'ami de la star? Est-ce qu'inconsciemment on se dit, oh, j'aimerais bien un jour quand même être son ami, pouvoir aller manger chez lui, un peu comme Gérard nous racontait?
Effectivement, très belle histoire, parce que ça fait écho à d'autres artistes que je suis, alors dont je ne suis pas forcément fan, mais que je suis et que j'ai eu la chance de rencontrer. Et effectivement, il se passe quelque chose de très étrange quand on commence à devenir ami avec des gens qu'on admire. On va pas forcément placer le terme de fan.
Admire.
Et alors, je trouve que c'est un beau gage de confiance qu'il lui ait fait écouter et offert le disque avant même qu'il sorte, parce que c'est effectivement un gage de confiance. On est souvent très touché. Moi, ça m'est arrivé avec certains artistes que je cherchais absolument à rencontrer dans la sphère de Prince, hein, pour rester sur le sujet, et que j'ai pu approcher et avec qui, à un moment donné, effectivement, vous les avez vus pendant des années sur scène, et puis vous êtes à table en train de parler de sujets très très varié, et de voilà, enfin très rapidement, pour faire dans l'anecdote, puisque je pense que c'est l'heure où on peut comme ça dans l'anecdote. Prince avait dans sa sphère un artiste qui s'appelait Jesse Johnson, qui est quelqu'un qui a vraiment compté pour les gens qui écoutaient sa musique. J'ai mis des années à le rencontrer, et un jour j'ai réussi, après 15 ans de poursuite dans tous les États-Unis, je l'ai trouvé à Las Vegas, et après un concert je lui ai dit, voilà, je suis venu spécialement pour vous, et il m'a dit, pas de problème, on va dîner ensemble après. Et on allait dîner ensemble, et là vous vous retrouvez avec une personne que vous admirez depuis plus de 15 ans, et le premier sujet qu'il aborde, c'est l'élection présidentielle française entre Sarkozy et Ségolène Royal. Et là, vous vous dites, c'est complètement hallucinant.
Ouais,
et voilà, et surréaliste. Donc voilà.
Et le deuxième sujet, c'était plutôt viande ou plutôt poisson, non ?
C'est ça, c'était à peu près ça après, exactement.
Merci beaucoup Gérard d'être venu nous parler de William Scheller qui est rentré un peu dans votre vie privée et vous dans la vôtre aussi. Peut-être un grand fantasme pour de nombreux fans. Il nous reste quelques minutes ensemble pour parler de vous, vous qui êtes fan d'un chanteur, d'un artiste, jusqu'où vous êtes allé, jusqu'où c'est allé cet amour aussi. On parle de fanatisme parfois. C'est pas un très joli mot parce qu'on pourrait parler aussi d'amour, de passion, de respect, d'admiration. Ce serait pas plus mal. Hein. 0810 055 056, à tout de suite.
Le soir sur France Bleu, on se dit tout avec Vanessa Lambert.
On parle des fans ce soir. Vous qui êtes fan, qui avez suivi un artiste pendant des années, qui avez été amoureux, même on peut le dire d'une certaine façon. Amoureux, pas dans le sens amoureux, hein. De l'amour. Voilà, on a de l'amour, de l'admiration pour quelqu'un. Ça va parfois très très loin. C'est difficile à expliquer aussi. On en parle avec ce soir notre grand témoin Raphaël Melki, fan de Prince et auteur de Purple Fame, histoire d'une addiction à Prince aux éditions Renaissance du Livre. Dans votre livre, justement, on découvre qu'avant Prince, il y avait Michael Jackson.
Exactement.
Et on va en parler avec Linda, qui est fan de Michael Jackson. Bonsoir Linda.
Bonsoir.
Vous êtes à Paris et vous, ça a toujours été Michael Jackson alors ?
À toujours, depuis l'âge de 11 ans. Et depuis le passage de Billie Jean à la télé le 5 mars 83, si ma mémoire est exacte.
Wow.
Ça a été vraiment un arrêt sur image, quelque chose d'incompréhensible, une fascination immédiate. Je me rappelle de l'heure, de l'endroit, avec qui j'étais, et cette espèce de fascination immédiate et qui en fait dure jusqu'à présent.
Mais alors, vous avez grandi avec Michael Jackson, si je comprends bien.
J'ai grandi avec Michael Jackson, j'ai grandi avec sa musique, il m'a aussi fait grandir, puisque quand on a 11 ans, on connaît la musique de papa-maman, la variété française, on connaît pas vraiment le reste. Du fait que je sois fan de Michael Jackson, je me suis intéressée aussi à tout son univers, toutes ses références musicales et autres. Donc j'ai aussi grandi comme ça. Il m'a fait... Je pense que je lui dois énormément sur ce que je suis du point de vue caractère et aussi sur des moments difficiles où je me suis raccrochée à sa voix. Et donc il m'a toujours accompagnée toute ma vie et jusqu'à présent.
C'est marrant, ça fait deux fois qu'on entend quand ça va pas bien, j'écoute la voix, il y a vraiment une notion, il y a quelque chose avec la voix, on l'a entendu tout à l'heure avec Obispo, on le voit là avec Michael Jackson, même si c'est difficile de comparer les deux. Linda nous parle d'un clip de Michael Jackson, de Thriller. De Billie Jean. Ouais. Vous, c'était Thriller, non ?
Je parle de ce clip-là aussi. Non, mais je commence le livre avec les paroles de Billie Jean.
Ah, c'est Billie Jean.
Donc, effectivement, je pense que c'est un choc
pour beaucoup
de gens. Les clips de Michael Jackson à cette époque-là étaient un choc. Effectivement, Billie Jean, c'était incroyable. On n'avait jamais vu ça. Hein. Soyons très clairs, surtout aux âges dont Linda parle. D'un coup, on découvrait tout en même temps, en fait. C'est-à-dire quelqu'un
vidéo,
qui puisse chanter comme ça, un clip un peu élaboré, puis de plus en plus élaboré par la suite, un personnage, un ovni, une manière de danser qu'on n'imaginait même pas. Donc de toute façon, on ne pouvait pas ne pas apprécier Michael Jackson à cette époque-là. C'était impossible, puisqu'on était en face de quelque chose d'absolument invraisemblable.
Et vous avez suivi tous les styles de Michael Jackson, Linda,
toutes
les transformations musicales, vestimentaires.
J'ai tout suivi. J'ai adoré de ne pas le reconnaître et de le reconnaître en même temps. J'ai adoré tous ces clins d'œil. Je suis parfaitement d'accord tout à l'heure avec ce qui a été dit, avec ces clins d'œil aussi aux fans français, que ça soit quelques paroles à la fin d'un disque, spécialement pour les fans français. Je l'ai suivi en tournée dans, je crois, 5 ou 6 pays. J'ai complètement...
Est-ce que vous avez fait partie d'une communauté de fans de Michael Jackson ?
Oui, mais encore, je pense qu'on se reconnaît aussi entre nous. J'ai une anecdote, il y a 2 ans, dans la société dans laquelle je travaillais, je croise une de mes collègues, je venais d'acheter des petites chaussures mode, etc. Et je la vois qui regarde mes chaussures, et elle me regarde et elle me dit « Billie Jean ». Et je la regarde, je fais oui, elle me fait moi aussi. Et en fait, c'était une fan et on s'est reconnus à nos chaussures. Donc voilà, il y a des choses comme ça, on se reconnaît entre nous.
C'est quoi les chaussures de Billie Jean? C'est les petits mocassins?
Non, c'est pas des mocassins. C'est très mode d'ailleurs, on en voit partout à l'heure actuelle. C'est des espèces de Richelieu. Donc, on en voit partout maintenant. Et c'est vrai que ça nous a... Voilà, on se reconnaît, il y a toujours un détail vestimentaire où on se dit, tiens, ça me rappelle quelque chose, et ça ne loupe jamais. Et oui, on se rencontre entre nous, on continue à se voir, d'ailleurs, on s'appelle régulièrement.
Une communauté qui bouge.
C'est vraiment une communauté qui s'est heureusement été là en 2009. Parce que...
Au décès de Michael Jackson.
Ah oui, au décès de Michael Jackson, ça a été un tel choc. Moi, mon expérience personnelle, c'est que je l'ai appris à 11h du soir parce que des amis m'ont appelé et j'ai fait « Non, moi, vos blagues, je veux pas en entendre parler. » Et j'ai coupé mon portable. Donc, je l'ai appris le lendemain à 7h du matin et en fait, j'ai pleuré qu'à 15h parce que j'étais dans un tel état de choc que rien ne sortait. Mmh. Ma vie s'était arrêtée à ce moment-là et le soir, on s'est retrouvés entre nous. Non pas pour se retrouver déjà d'une, pour se soutenir, parce qu'on avait vraiment l'impression de perdre un membre de sa famille, mais vraiment très très fort. À l'heure actuelle, il nous arrive encore de pleurer.
De se retrouver ensemble, de pouvoir en parler, de pouvoir pleurer aussi ensemble. Linda, merci beaucoup d'être venue témoigner ce soir, d'être venue nous parler de Michael Jackson.